6h04, mardi 12 février. Bonne journée et bienvenue à l'antenne de 98.5 FM en ce mardi 12 février. Et l'avertissement de tempête hivernale qui est maintenu. Alors, ce matin, c'est froid, là, c'est autour de moins 17 avec un ciel généralement dégagé. Ça va se couvrir graduellement. La neige va commencer tard en après-midi. Probablement qu'on sera épargné pour le retour à la maison. Mais les premiers flocons vont se manifester avec un maximum de moins 12 pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, de la neige, parfois forte, de la poudrerie. Et à compter de ce soir jusqu'à demain matin, on parle d'une accumulation de 30 cm de neige, ce qui est beaucoup, avec des vents jusqu'à 60 km/h, température à la hausse pour atteindre moins 5 durant la nuit. Demain, c'est de la neige, de la poudrerie le matin et en après-midi. L'accumulation varie selon les sources, 5 cm ou encore 10 cm de neige, avec des vents encore là, jusqu'à 50 ou 60 km/h. Pour jeudi, on prévoit possiblement un peu de neige, autour de moins 2 degrés, mais pas de quantité importante. Le 30 à 40 cm, on le reçoit à compter de ce soir jusqu'à la fin de la journée demain. Et après quoi, toujours nuageux, toujours des flocons, mais pas d'accumulation. Et c'est à peu près le même scénario pour vendredi. Même vendredi, on prévoit peut-être de la pluie. C'est autour de 4 degrés. Encore un peu de neige pour la fin de semaine. Et finalement, on devrait voir le soleil dimanche avec des températures autour de moins 5 degrés. Beaucoup de dossiers ce matin. Je pense que le dossier le plus important, c'est le dossier de SNC-Lavalin. D'une part, le commissaire à l'éthique qui a reçu une plainte du NPD a annoncé hier qu'il amorçait une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je rappelle rapidement les faits. SNC-Lavalin est accusé dans une affaire de corruption avec la Libye, donc pour l'octroi de contrats, qui remonte à plusieurs années. Et si jamais SNC-Lavalin est reconnu coupable, c'est une interdiction d'avoir des contrats du gouvernement, puis en même temps, des contrats financés aussi par la Banque mondiale. Vous comprenez, les enjeux sont considérables. La ministre de l'époque de la Justice, elle, voulait qu'on procède devant les tribunaux. Et il y a cette disposition qui existe, la fameuse clause de réparation, qui permet à une entreprise de plaider coupable, mais en même temps de payer des amendes, de donner des garanties pour s'assurer que l'entreprise a pris un virage, disons, honnête et que c'est terminé. Alors, la question, est-ce que le bureau du premier ministre ou le premier ministre lui-même a poussé pour obtenir ce règlement pour faire en sorte que SNC-Lavalin ne soit pas pénalisé? M. Trudeau a donné une première version qui était: je n'ai pas donné de directive à la ministre. La nouvelle version de M. Trudeau, j'ai eu une discussion avec la ministre Wilson-Raybould et elle me confirme, les mots sont importants, elle me confirme que l'automne dernier, je lui avais dit directement que toute décision dans ce dossier-là relevait évidemment de la poursuite publique du procureur général. Donc, écoutez ça, là. Il dit, je lui ai parlé, elle m'a confirmé que je lui avais dit qu'à l'époque, il fallait que ça passe par la poursuite. Alors là, M. Trudeau essaie de s'en sortir. C'est le premier cas. Le deuxième cas, ça concerne un procès aussi qui se déroule présentement. Et c'est l'amiral, le vice-amiral Mark Norman qui est accusé dans une affaire encore là de collusion pour l'octroi de contrats importants de 700 millions à la Davy, et on l'accuse donc d'avoir coulé des secrets du gouvernement. Et là, on apprend par le biais des avocats que le conseil privé, qui est adjacent au bureau du premier ministre, se serait mêlé de discussions également dans ce dossier qui est devant le tribunal. Deux cas où on soupçonne le pouvoir politique de nager autour de décisions qui sont juridiques. Et on comprend l'importance, évidemment, dans le cas de SNC-Lavalin, d'éviter qu'il y ait des poursuites et que ça se règle devant le tribunal. Tu sais, qu'on puisse nettoyer la place. Et depuis le début, la question que je me pose, je vous la posais hier matin, mais pourquoi, si on a créé ces dispositions-là, on ne s'en sert pas dans le cas de Lavalin? Est-ce qu'on a quelque chose, une carte cachée qui concerne Lavalin? Et là, la presse nous dit ce matin qu'il y a de nouvelles accusations qui pourraient être déposées contre Lavalin, cette fois dans le dossier de la société du pont Jacques-Cartier. Alors, c'est un stratagème, un contrat de réfection qui avait été obtenu. C'est au début des années 2010. Le PDG Michel Fournier a reconnu avoir reçu 2,3 millions illégalement. Donc, c'est un pot de vin qu'on lui a donné. Il a été condamné à 5 ans et demi de prison en 2017. Il y a quelqu'un qui a donné le pot de vin. Là, tu dis, OK, c'est qui? Puis est-ce qu'il a été accusé? Bien, ça vient de chez Lavalin. Et l'enquête se poursuit. Il pourrait donc y avoir des accusations. On a vu le titre de Lavalin tomber hier. Tout ça pour vous dire que la société navigue en eau trouble, c'est le cas de le dire. Puis est-ce qu'il y a d'autres cas qui vont apparaître sur la pratique de l'époque? Mais l'enjeu est fondamental parce que ça risque de pénaliser des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et Lavalin, c'est un gros joueur dans l'économie du Québec. Et on comprend M. Legault qui a eu cette discussion avec Justin Trudeau en disant qu'il faudrait s'arranger pour être capable de régler le dossier. On va retrouver Marc, l'heure de pointe, en ce début de journée. Merci beaucoup. On poursuit avec cette fois le dossier de l'immigration. Hier, on a eu droit à la valse des chiffres. Finalement, et c'est entré, là, c'est tout chaud, les données du ministère de l'immigration. On a fait une demande hier. Alors, je vous donne les chiffres officiels. Combien de dossiers sont ouverts, mais inactifs? Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le ministère disposait de pas loin de 12 000 demandes en attente de traitement. Il y en a 6 000 qui étaient en cours de traitement. Ce n'est pas la réponse à la question. On a demandé combien il y en a qui sont inactifs. Inactifs, ce n'est pas en attente de traitement. Je parle de dossiers d'immigration où la personne ne se manifeste pas, est rendue ailleurs, a décidé de renoncer. Donc, des dossiers là où il n'y a pas d'activité. Alors, on ne le saura pas. Également, la question est quand même importante parce qu'hier, il y a eu des chiffres différents. Combien parmi les 18 000 dossiers sont des dossiers de gens qui sont au Québec aujourd'hui? Officiellement, des demandes déposées par des gens qui sont au Québec, 3 681, puis d'après leurs calculs, c'est approximatif, ça représenterait 5 500 personnes. Alors, ce sont les chiffres. La question que tu peux te poser, évidemment, c'est pourquoi tu ne règles pas les dossiers de gens qui sont ici? Des gens qui ont déjà un travail, des gens qui sont implantés, des gens qui ont une vie au Québec, plutôt que de dire à ces gens-là de recommencer le processus. Pourquoi tu n'étires pas du lot? Ça ne va pas être si compliqué que ça, là. Puis de dire, voici, on passe en priorité ces dossiers-là, ce sont des gens qui sont déjà ici. On peut-tu les étudier? Parce que là, on crée de l'insécurité, on crée de l'angoisse, sans parler des doutes qu'on peut avoir sur la lenteur de la machine bureaucratique. Mais le ministre est dans sa logique, puis lui a décidé qu'on fait table rase, puis son argument, c'est que le fédéral l'a fait, puis que légalement, c'est correct. Moi, je veux bien. C'est pas parce que le fédéral l'a fait que c'est nécessairement un geste qu'il faut maintenir ou perpétuer. Et l'idée d'arrimer le marché du travail avec les gens qui optent pour l'immigration au Québec, on est bien d'accord avec ça. Mais il faudrait arrêter de nous raconter des histoires sur le fait que les gens vont s'installer, puis qu'on va les amener vers les régions, puis qu'on se donne des dispositions dans la loi pour éventuellement, avec un test, puis un test de français, qu'on fasse des contrats, qu'on ait une approche. Mais c'est comme si on avait pas mal déboulé les affaires. Et il semble que des collègues de M. Jolin-Barrette, c'est Denis Lessard qui rapportait ça dans la presse, trouvent qu'il est un peu trop rapide et qu'on tourne les coins un peu ronds dans ce dossier-là de l'immigration. D'autre part, parlons du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Je vous le disais hier, je comprenais pas trop ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait dire. Quand il a parlé de la bureaucratie puis des ayatollahs du ministère de l'Environnement, je vous ai dit en même temps hier matin, c'est quand même particulier, c'est le premier ministre de l'Agriculture qui va à un congrès de l'Union paysanne, qui est un regroupement de producteurs agricoles, disons, en marge de l'UPA, l'UPA qui a le puissant monopole. Puis il n'y a pas un ministre qui a voulu être vu avec des gens de l'Union paysanne. Lui, la montagne, il y va, puis il montre une ouverture face aux petits producteurs. Puis en même temps, là, tu dis, moi, mais pourquoi il parle de ça? l'histoire des ayatollahs, est-ce qu'il y a de la bureaucratie? Évidemment. Est-ce qu'on écœure des petits producteurs? C'est sûr, sur des affaires qui ne sont pas importantes par rapport à des producteurs plus gros. Mais là, tu essaies de le suivre. Il nous a expliqué qu'il avait congédié l'agronome qui dénonçait le lobby des entreprises dans la recherche pour ensuite dire qu'il avait eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de grave. Tu sais, il était tout mêlé dans son affaire. Puis là, il tient des propos encore tout croche. Fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Puis là, vous avez des gens, par exemple, qui nous ont écrit, qui gravitent autour de l'Union paysanne, qui disent « Attention, attention, il a pris la défense des petits producteurs. » Moi, je veux bien, là. Mais peut-être que c'est l'inexpérience qui l'habite assez solidement, parce qu'il lance des phrases plus ou moins construites, bien construites et pour le moins, disons, confuses. Les parents d'Alexandre Bissonnette trouvent que la sentence est trop sévère dans une lettre adressée aux médias. Nous vous remercions à l'avance, lettre ouverte donc. Son père, M. Raymond Bissonnette, revient sur l'abolition de la peine de mort et considère qu'il faut donner espoir aux gens qui sont condamnés d'obtenir un jour une libération après 25 ans et d'être placés sous la surveillance des libérations conditionnelles et considère que l'intimidation tant psychologique et physique subie par Alexandre durant ses années scolaires a eu des effets dévastateurs sur sa personnalité. Et si on veut réellement empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise, il nous semble que la solution n'est pas de chercher à enfermer quelqu'un à jamais, mais plutôt tenter de mieux comprendre et prévenir ce véritable problème de société qui continue à faire de jeunes victimes. Et ça arrive au moment où vous avez, dans la presse ce matin, des données concernant l'attente en santé mentale pour l'Est de Montréal. Les listes d'attente pour obtenir une évaluation ont explosé ces deux dernières semaines. Le nombre de patients en attente est d'à peu près 500, 477, là. Et ceux-ci devraient normalement patienter 30 jours pour être évalués par un psy. Mais là, on est plutôt dans le 6 mois d'attente. Et il y a une réunion d'urgence qui est prévue à ce sujet aujourd'hui. Alors, des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'être évalués et qui ne le seront pas avant plusieurs mois. Et là, vous avez Michel Cadotte, où c'est le débat des experts qui continue. Donc, on le sait, accusé d'avoir tué sa femme atteinte d'Alzheimer. Et le docteur Gilles Chamberlain qui a témoigné, qui a dit, écoutez, ce gars-là, c'est pas une dépression, c'est un problème d'adaptation. Consommation d'alcool qui peut le rendre évidemment plus dépressif, mais aucun symptôme majeur de dépression. Et bref, c'est sûr qu'il était découragé de ce qui arrivait. Il y avait de la difficulté à s'adapter à la situation, mais c'est pas une maladie mentale et c'est pas une dépression. C'est qu'un autre expert qui nous a dit que il était en phase dépressive à ce moment-là. Et aussi, j'allais vous dire, je voyais ça passer hier, j'étais quand même assez assommé, alors que le ministère de l'Éducation, avec les gens de Hockey Québec, ont décidé de présenter un guide. La ministre Isabelle Charest sera avec nous, là. Un guide sur l'agressivité et les comportements inacceptables de parents au hockey mineur. C'est rendu que l'État est obligé de pondre, avec les gens du hockey, là, une espèce de guide de bonne conduite pour les parents débiles dans les amphithéâtres. Alors, langage excessif, cris, insultes, conduite disgracieuse ne peuvent être tolérés. C'est ce qui est indiqué dans ce document de 43 pages. La ministre dit, malheureusement, nous sommes obligés de constater qu'il y a encore des comportements qui n'ont pas de sens. Des comportements à l'endroit des entraîneurs, à l'endroit des arbitres, à l'endroit des jeunes, à l'endroit des parents, des autres équipes. Et je comprends que c'est pas un guide là, qui change l'attitude des gens. On pense qu'on va les sensibiliser. Et on rappelle aux parents leur rôle, leur responsabilité face à l'équipe, face au personnel de l'aréna, aux administrateurs, et d'apprendre à se contrôler. Alors, on est obligé de dire à des adultes, voulez-vous, s'il vous plaît, contrôler vos nerfs, contrôler vos émotions. Il y a un géant américain des cigarettes électroniques qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis pour ses pratiques marketing auprès des jeunes. C'est le géant Juul qui, semble-t-il, va faire du lobbying au Québec pour dans le cadre du débat concernant l'âge pour consommer du cannabis. Et on sait que les vapoteuses ont des intérêts quand même assez importants. Et on veut expliquer, évidemment, que d'interdire l'achat de cannabis par les moins de 21 ans pourrait avoir une incidence sur le vapotage au Québec. Et c'est tout le débat là, qui s'en vient concernant la volonté de la CAQ. Il n'y a pas grand monde qui est en faveur de la hausse de 18 à 21 ans parce qu'on dit que le marché est là, puis qu'en 18 et 21, ils vont consommer pareil. Puis c'est le crime organisé. Mais on sait que c'est une promesse de la CAQ et la CAQ continue dans cette direction. Également, vous dire que Caroline Néron a obtenu un délai supplémentaire pour tenter de régler ses problèmes financiers. Donc, elle est à la recherche d'un nouveau financement autour de 700 000 $. Je rappelle aussi qu'il y a 12 indépendantistes catalans qui sont appelés à comparaître aujourd'hui à Madrid, alors que le premier ministre Pedro Sanchez est accusé, notamment par les partis de droite et d'extrême droite, de chercher un compromis. Alors, ce sont des indépendantistes qui ont été arrêtés. Ils sont accusés, et c'est grave, là, d'avoir déchiré le pays. Rébellion, sédition, malversation de fonds, appartenance à une organisation criminelle, désobéissance à l'autorité. Et on se souvient des trois grands moments de la crise en Catalogne, c'est-à-dire l'adoption du fameux projet de loi sur un référendum d'autodétermination, la tenue du référendum, qui avait été pourtant interdit, et finalement la déclaration unilatérale. Donc, des indépendantistes qui pourraient se retrouver en prison. Certains sont détenus, d'autres pas. Et vous comprenez les enjeux quand même qui sont importants. On les accuse de sédition. Alors, ça divise carrément le pays en deux. Et il y a un premier ministre qui essaie de trouver une solution de compromis, puis des extrémistes qui disent, écoutez, ils ont voulu briser l'Espagne, alors on va s'en occuper. Et il faut les sortir pour envoyer un message clair. Et aussi vous dire qu'au procès de El Chapo, le trafiquant, le chef du cartel mexicain, ben, il n'y a pas de jugement encore. Puis ça fait déjà quoi, là, autour de 5 jours qu'on délibère. Il y a des gens qui se demandent pourquoi il n'y a pas de décision. Peut-être que la cause est complexe, ou ben donc peut-être que, on a déjà vu ça dans des séries et dans des films, un ou deux membres du jury qui arrive pas à se décider, puis on se demande pourquoi. Il est 6h22 minutes. 25 secteur de Terrebonne.